soir, situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un dernier ultimatum ayant expiré dimanche dernier avait été donné au M23 par le gouvernement pour se retirer des positions sous son contrôle. Mais deux jours après l'expiration de cet ultimatum gouvernemental, aucun signe d'exécution n'est jusqu'ici observé sur terrain. Les rebelles du M23 ne montrent aucun signe de vouloir se retirer des zones qu'ils occupent sur le terrain. On observe plutôt des agitations relayées aussi par plusieurs acteurs locaux. De son côté, l'armée de la République démocratique du Congo s'est déployée vendredi dernier à Mushaki, dans le territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu. Quelle analyse faire de cette situation? Où en est aujourd'hui le processus de cantonnement du M23? C'est le débat ce soir. Et pour en parler, nous recevons Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Jean-Claude Mbabazé, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les journalistes, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi. Bonsoir également à tous les co-débatteurs qui sont avec qui on sera ensemble pour le débat.
Également dans cette émission ce soir, Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir à vous, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Capi.
Vous êtes politologue, professeur à l'université de Liège en Belgique, et enfin Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo et d'Afrique. Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous.
À tous donc, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Ce soir, la thématique de notre émission, c'est la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un dernier ultimatum ayant expiré dimanche dernier avait été donné au M23 par le gouvernement pour se retirer des positions sous son contrôle. Mais deux jours après l'expiration de cet ultimatum gouvernemental, aucun signe d'exécution n'est jusqu'ici observé sur le terrain. Les rebelles du M23 ne montrent aucun signe de vouloir se retirer des zones qu'ils occupent sur le terrain. On observe par contre des agitations relayées aussi par plusieurs acteurs locaux. La situation à ce jour de cette problématique dans cet entretien entre Bernardin Nyangui et Guy Maté.
Bernardin Nyangui, bonsoir. Comment se présente la situation aujourd'hui?
Bonsoir Guy Maté. En fait, à l'expiration de ces délais accordés aux rebelles de libérer l'intégralité de l'espace sous leur contrôle au 24 septembre, d'aucuns attendaient un lancement des offensives des FARDC pour les y contraindre. Mais jusqu'ici, c'est un calme précaire qui s'observe deux jours après cet ultimatum. Plusieurs acteurs, notamment de la société civile du territoire de Masisi, font état des agitations dans la zone de combat. Un mouvement de troupes des rebelles du 1-23 est par exemple constaté dans la chefferie de Butte au territoire de Rutshuru, ainsi que dans la chefferie voisine de Bacha, le territoire de Masisi. Dans ces zones, des sources indiquent que les soldats rebelles sont aperçus portant un important arsenal militaire en mouvement de retour vers la zone de Masisi, visiblement pour renforcer en armes et en hommes les anciennes positions qu'ils avaient déjà pourtant dégarnies en faveur du déploiement de la force régionale de l'EAC.
Est-ce qu'il y a déjà des affrontements signalés dans la zone?
Affirmatif, Guy. Selon plusieurs informations en notre possession, des affrontements ont opposé à plusieurs reprises la semaine dernière les rebelles du 1-23 aux combattants Wazalendo dans la zone de Busumba, par exemple, ouest de Kichanga. C'est dans la chefferie de Bachali, territoire de Masisi. Mais aussi, pas plus tard qu'hier lundi, d'autres affrontements ont opposé toujours les rebelles du 1-23 aux autres Mai Mai Wazalendo dans la zone de Nyamitaba, précisément dans le village Nyiramuguru vers 5h du matin. Là, c'est toujours dans les Bachali, groupement de Bachali Kaembe. Nos sources dans la zone indiquent que les Wazalendo auraient tendu une embuscade aux rebelles du 1-23 qui tentaient de se déployer vers Karenga, près de la cité de Sake, et donc la zone restait instable.
Et les FRDC, est-ce qu'elles interviennent dans ces affrontements?
Jusqu'à présent, Guy, cette hypothèse n'est pas confirmée. Nous avons contacté au moins à deux reprises le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, à ce sujet. Sa réponse reste claire. Les FRDC respectent encore le mot d'ordre de cesser le feu édicté par le chef d'État de la région EAC. Il tient toutefois à préciser que si les rebelles continuent à menacer les civils, ils devaient s'attendre à une réponse appropriée de l'armée congolaise. Voilà tout, Guy Maté.
Merci beaucoup, Bernardin Nyangui.
Merci à vous, Guy Maté. Bonsoir.
Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Il y a donc deux jours, le gouvernement congolais renouvelait cet ultimatum au M23. Et s'il y a des Congolais qui devaient être attentifs à écouter pareil message, c'est bien la population de la province du Nord Kivu. Vous qui êtes là-bas, avez-vous l'impression que ce message, cet ultimatum de la RDC a été entendu déjà par les populations elles-mêmes?
Oui, merci beaucoup. Donc, avant de commencer à répondre à votre question, je voudrais encore une fois présenter ma compassion à toute la population du Nord Kivu en général, de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo en particulier, pour ces moments, en tout cas très longs, qui viennent de passer entre les mains de cette route du M23, avec tout ce qu'il y a comme conséquence sur la vie socio-économique de la population. Donc, pour revenir à votre question, en tout cas, il faut dire clairement que il est vrai que la population a reçu vraiment avec un espoir à cet ultimatum déclaré par le gouvernement congolais via le ministre des Affaires étrangères. Et bien évidemment, la population, en tout cas, attendait une réaction farouche de la part du gouvernement parce qu'elle est fatiguée, en tout cas, avec ce qui se passe dans ces entités. Mais également, il faut dire que la population, en tout cas, soutient totalement son gouvernement, mais elle est quelque peu déçue de voir que deux jours après, il n'y a rien qui est fait.
Jean-Claude Mbabazé, si la population, selon vous, a bien reçu ce message, avez-vous l'impression que le M23, là où ils sont, ont entendu ce message, l'ont reçu, et qu'est-ce qui, selon vous, explique deux jours après ils n'ont pas bougé le simple petit doigt?
Bon, il faut dire que le M23, c'est vrai, ils ont entendu le message, mais ils ne l'ont pas reçu tel que le veut le gouvernement. Vous savez que dans le look du M23, c'est vraiment de conquérir les entités telles qu'il l'a fait dans le passé, mais également pour le moment, le M23 continue à presser qui est des négociations. Vous avez suivi vous-même ce qu'a dit Bertrand Bissimon la semaine passée, où il dit clairement que pour eux, ils attendent des négociations. Dans le cas contraire, l'M23 se prépare à une guerre très importante. Donc, il faut dire que le message était très fort, de telle sorte que même au rang du M23, il y a eu beaucoup d'agitation au courant de la semaine passée, non seulement par la sortie de Bertrand Bissimon par ce qu'il a dit, mais aussi on a assisté à plusieurs meetings organisés dans le territoire sous contrôle des M23, notamment à Kiwanja, à Rubare, à Kabaya, en Tamugenga, un peu partout, où les autorités des M23 sont en train de sensibiliser la population à adhérer à leur vision parce qu'ils ont compris que la population vraiment a très bien reçu le message du gouvernement et attendait les frappes du gouvernement. Alors il fallait passer à l'étape de sensibilisation de la population pour qu'elle puisse vraiment avoir cette approbation. Mais au-delà même de ces meetings, il faut comprendre que l'agitation va au-delà, jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'M23 a commencé à délocaliser même certains quartiers généraux, notamment par peur de frappe, parce que l'M23 s'attendait vraiment qu'il va être frappé. Je peux vous dire aujourd'hui que comme le QG de Tchang a été déplacé vers Oginga, ils sont présentement à Rutshuru, puisque tous les officiers militaires sont à Rutshuru. Il y en a d'autres qui sont du côté de Ndondi, Gatovu dans le Rugari, il y en a d'autres qui sont du côté de Gikeri dans le Nyiragongo, d'autres sont à Bouiza et même à Mulimbi dans la chefferie de Buito. On a cité même des grands officiers, notamment comme Zenze qui vient de Bwito, de Bwiza. Donc bref, il faut dire qu'il y a vraiment cette agitation qui a, en tout cas, a donné un peu trop encore le moment de revoir encore un peu sa stratégie et de quitter même des zones où il pense qu'il peut mettre la cible et aller s'installer au centre de la population. Parce que ce qu'on a suivi même dans leur meeting, ils ont dit clairement que si le gouvernement va frapper, il ne va pas frapper dans la population. C'est comme ça qu'il veut s'installer au centre de la population pour qu'il prenne la population comme des boucliers. Mais au-delà de ça, bien sûr, comme je vous dis, ils ont maintenant renforcé, c'est vraiment cette agitation-là, ils ont renforcé partout, c'est-à-dire toutes les lignes de front vers Kibumba, donc vers Tongo, vers Bwiza, du côté vers Kilolirwe, où il y a eu même des affrontements, tel que venait de le dire votre collègue journaliste. Donc bref, il y a vraiment cette agitation au sein de M23 et nous pensons que ce message du gouvernement ne devait pas rester seulement un message, mais il faut qu'il y ait des actions qui suivent parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un moment favorable pour frapper la M23, tant plus que toute la population entière est derrière son armée et donc c'est vraiment un moment favorable pour que l'on quitte l'état de parole pour passer à l'action.
À l'action. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Vous avez entendu l'observation de notre collègue qui nous a fait le compte-rendu tout à l'heure. Il dit que selon les informations qu'il a, à part le déploiement de vendredi dernier de notre armée de la République démocratique du Congo, d'autres mouvements, soit d'avancer vers le M23 ou de l'encercler, ne sont pas vus pour le moment. Est-ce que vous le confirmez? Et est-ce que, si vous confirmez, vous comprenez que l'armée n'est pas déployée vers les M23 pour frapper, comme on aurait pu s'attendre, ou bien vous ne comprenez vraiment pas que, comme vous le disiez un peu tantôt, l'armée de la RDC ne soit pas passée à l'attaque aussitôt?
Oui, nous ne comprenons pas exactement comme vous venez de le dire, parce que du moment que la M23 s'active pour non seulement aller vers les lignes de front, mais aussi réoccuper les quelques localités qu'il avait cédées d'une façon bien sûr masquée, c'est notamment la colonie de Nyundo qui vient de réoccupé dans le territoire de Nyagongo, même le bureau du territoire vient d'être réoccupé, et d'autres quartiers où ils avaient quitté et qui s'y veillaient bien sûr de loin, mais ils viennent encore d'apparaître physiquement pour dire que là, il y a vraiment une organisation. Mais de notre côté, nous aussi, on attendait voir quand même les déploiements, on attendait voir les troupes, on attendait voir le matériel, et surtout que c'était déjà annoncé par le ministre, et que donc, c'était vraiment le cas. Nous, on s'attendait que déjà, aujourd'hui, on allait déjà vivre en tout cas des frappes sérieuses qui permettraient à ce que c'est un terroriste de M23 soit défait totalement et permettre à nos populations de regagner
leurs habitations habituelles.
D'accord. Oui, donc c'est nous, on voit que la situation elle est encore habituelle, il n'y a rien vraiment de nouveau du côté des FARDC.
Merci Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Nous restons avec vous dans ces débats. Bob Kabamba, politologue, professeur à l'université de Liège en Belgique. Professeur, comment analyser ce message, cet ultimatum de la République démocratique du Congo, mais aussi cette inaction à passer à l'offensive comme on aurait pu s'y attendre ou comme on pensait l'avoir compris?
Oui, merci pour la question. C'est qu'il faut bien se remettre dans le contexte. C'est-à-dire ici, on arrive à ce qu'on appelle une escalade verbale. L'escalade verbale qui n'est pas suivie de ce qu'on appelle une escalade militaire. En gros, c'est que de plus en plus, il y a une tension liée aux élections de 2023 en décembre. Ces élections doivent véritablement avoir lieu. Mais comment aller aux élections sans que Rutshuru, Masisi et d'autres zones de Nyiragongo pourraient ne pas participer au scrutin parce que, comme on l'a suivi, il n'y a pas eu d'enrôlement dans ces zones-là. Et il est impératif par rapport à un gouvernement responsable de pouvoir dire que non, de toute façon, il faut que nous récupérions ce que nous considérons comme un droit qui est légitime, un droit du gouvernement congolais, de pouvoir arriver à ce que tous les Congolais arrivent à voter. Ça, c'est à cet impératif-là, parce qu'il y a aussi, ne pas oublier, tout le contexte politique. Le politique au niveau du Parlement, au niveau de tous les députés au niveau national, surtout ceux de l'Est et du Nord Kivu, qui se rendent bien compte, surtout ceux qui sont de Rutshuru, Masisi et compagnie, se rendent bien compte que s'il n'y a pas d'élection, ils ne pourront pas pour siéger au Parlement. Et cette tension veut que le gouvernement puisse répondre à cette demande des populations qui sont là et qui demandent de pouvoir arriver à accomplir leur vote. Et d'où le message du gouvernement congolais de pouvoir véritablement essayer de lancer cette offensive. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi du côté du M23, c'est qu'ils s'y attendaient par rapport à cette offensive annoncée, du fait qu'ils ont eu pendant tout un temps le temps de pouvoir bien se réarmer, bien se former, bien recruter, bien ce qu'on appelle consolider leur position, et qu'on risque d'arriver à ce qu'on appelle la mer des batailles. C'est-à-dire où l'offensive armée congolaise réussit, si l'armée congolaise échoue à pouvoir arriver à déloger le M23, je vous laisse imaginer les conséquences. L'impression que ça donne, en analysant de manière froide, c'est que nous assistons à une espèce de poker en disant oui, on y va, on va les déloger, mais les déloger, est-ce que vous avez les déloger le M23 avec l'armée congolaise, est-ce que les M23 vont se laisser, et en sachant très très bien que le M23 n'a pas le soutien que du Rwanda, a aussi le soutien de l'Ouganda. Est-ce que l'Ouganda et le Rwanda vont accepter que les FADC arrivent à avoir une victoire ou pas, etc. Donc je doute très fort par rapport aux enjeux qui sont en train de se dessiner, par rapport à tout ce qui est en train de se dessiner, et par rapport aux enjeux liés non seulement au contexte politique rwandais, mais aussi au contexte politique ougandais, qui vont accepter calmement un M23 qui est un outil pour eux en termes de pèse, en termes de poids par rapport à leurs propres revendications, d'arriver à ce que ça soit éradiqué. Là, on va arriver à le voir. Si l'offensive se fait, et je doute vraiment, vraiment très fort que le Rwanda reste passif, d'autant plus que le Rwanda a déjà signalé à plusieurs reprises qu'il y a eu, il y a maintenant des preuves évidentes que même le Corneille Nanga, l'ex-président de la CENI, avait même affirmé qu'il y a des FDLR qui sont dans la garde républicaine, que le gouvernement congolais a déjà reformé des bataillons des FDLR, dans l'objectif de pouvoir véritablement être des supplétifs aussi de l'armée congolaise. Or, le Rwanda considère les FDLR, quel que soit leur niveau, comme une menace. Et n'oubliez pas ce qu'on appelle par rapport au régime rwandais, ils appellent toujours que, quelle que soit la menace, quel que soit le niveau de menace, il faut l'éradiquer. Et donc, si l'offensive se fait, ça veut dire que l'offensive ne va pas s'arrêter uniquement par rapport au M23, risquer de pouvoir embraser la région, ça veut dire le Rwanda et aussi l'Ouganda. Et est-ce que ces deux pays vont accepter de s'asseoir, de pouvoir regarder tranquillement l'offensive de l'armée congolaise sans réagir? Ça, j'ai doute fort. Et donc, clairement, je pense que s'il y a une offensive, nous risquons d'arriver à un basculement, soit un basculement qui va avoir une répercussion un peu durable, non seulement sur le contexte congolais, mais aussi dans tout le contexte de la région.
Professeur Bob Kabamba, juste récemment, l'armée de la République démocratique du Congo n'a pas été à elle seule capable de vaincre la menace M23 et de sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que quelque chose s'est passé entre-temps? Est-elle devenue, à l'heure où nous parlons, capable de mener une telle offensive telle qu'on a pu, qu'on a eu l'idée de l'entendre? Et puis, désormais, selon vous, que devient le rôle des autres forces invitées dans la même problématique?
Alors, il y a plusieurs choses que vous me posez comme question. Vous devez savoir que l'armée congolaise a le bénéfice de plusieurs groupes supplétifs, qu'on appelle les groupes supplétifs, qui étaient des groupes armés qui devaient entrer dans un processus qui était dirigé par Uhuru Kenyatta, on appelle ça le processus de Nairobi, mais avec les décisions du gouvernement congolais, notamment la question de pouvoir créer des supplétifs de l'armée, et ces supplétifs deviennent qui étaient les anciens groupes armés qui devaient être des armées identifiées, localisées, ainsi que cantonnées pour être des armées et réinsérées au niveau de la société civile, au niveau de leur communauté. Ces groupes se retrouvent désormais comme ce qu'on appelle les groupes supplétifs, et donc ne sont plus concernés par le processus de désarmement et de cantonnement. Et alors, à côté de ça, vous avez aussi des groupes de mercenaires qui sont présents à Goma, parce que tous les rapports sont clairs là-dessus, et ces groupes de mercenaires qui sont en train de former non seulement les supplétifs, mais aussi l'armée congolaise. Et donc ces éléments permettent, entre guillemets, au niveau du gouvernement congolais, de penser qu'ils ont suffisamment de force pour arriver à éradiquer le 1-23. Mais là, en face, on a la question liée du 1-23 qui n'est pas que 1-23, comme vous le savez. Le 1-23, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi le Rwanda, c'est aussi l'Ouganda. Et ce que je suis toujours étonné à chaque fois, que le gouvernement congolais ne mentionne jamais l'Ouganda. Parce que les renforts, tout ce qui est renfort du M23, tout ce qui est renfort des munitions, tout ce qui est renfort, etc., ne passe pas par le Rwanda, passe par l'Ouganda. Et chaque fois, le gouvernement congolais ne stigmatise pas l'Ouganda, mais stigmatise toujours le Rwanda et pas l'Ouganda. Et bien, en sachant très bien dans ce contexte-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera difficile pour l'armée congolaise, de mon point de vue, d'arriver à vaincre le M23 qui a derrière lui ces différents éléments que je viens de mentionner.
Merci, professeur Bob Kabamba, Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo et d'Afrique. Quelle est votre lecture de cette nouvelle problématique de l'ultimatum qui a été donné, qui est expiré et pour lequel on n'est pas encore en train de voir les effets entraînant les conséquences d'un manque de respect de cet ultimatum?
Oui, merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas répondre ce que mes co-débatteurs viennent de dire. Et j'ai deux sentiments qui sont un peu contradictoires. Le premier sentiment, c'est que se féliciter d'abord le gouvernement, tout simplement parce que c'est quand même du courage de déclarer que dans 2, 3, 4 jours, ils doivent déjà partir et on les attaque s'ils ne partent pas. Et qu'il y a même des rumeurs, parce que j'ai pas vu des documents, disant que le ministre était prêt à démissionner au cas où, d'ici là, on n'arrive pas à gagner cette bataille ou bien guerre. Donc j'encourage ces langages-là, parce que nous sommes au moment où on doit être capable de nous battre. Donc en termes de communication, j'estime qu'il y a des erreurs, oui, mais ça peut changer un peu de donne, un peu chez tout le monde, hein. Je pense que le gouvernement sait lui-même pourquoi il a fait une telle communication. Mais le deuxième sentiment, c'est que ben, je pense que ça risque d'être une erreur stratégique. Et mes deux co-débatteurs viennent de le dire déjà très bien avant. Pourquoi? Parce qu'on n'avertit pas à son adversaire qu'on doit l'attaquer. Je pense que le président de la société civile, qui a été plus éloquent que ça, il a bien démontré que sur le terrain, je sais, j'ai conçu ces informations, il a même un poids plus de précautions. Exactement, totalement, et continuer à prendre des précautions. Donc, c'était inutile d'annoncer sa stratégie. Sauf nous pensons que ça aurait des effets sur le plan diplomatique. Ce n'est pas vraiment sur le plan de la guerre sur le terrain. Peut-être sur le plan diplomatique, bien sûr, un autre plan, c'est possible. Mais sur le terrain, non, ça ne peut pas avoir des effets assez stratégiquement positifs. C'est pas correct. Alors, si on prend l'autre angle, on s'est dit que le gouvernement congolais a annoncé. Mais c'est quoi cette histoire-là? Nous avons un problème parce que nous sommes devant des terroristes. Il faut maintenir l'aspect officiel. On est devant des terroristes du supplétif. Comme la signe des signes, nous sommes d'accord, du Rwanda et nous confirmons de l'Ouganda. Et du néocolonialiste d'ailleurs, hein, des multinationaux, des entreprises multinationales, etc. Donc, je préfère, en tant que panafricaniste, prendre un peu une sorte d'adage. Les serpents entrent dans votre maison et en train de vous mordre, là je parle d'une terroriste, et en train de vous mordre, de tuer tout à son passage, et vous annoncez aux serpents que, bon, écoutez, maintenant je vais vous attaquer. Vous devez sortir. Non, c'est pas possible. On n'annonce pas. On tue les serpents avec tout le moyen qu'on a, et on le fait, on met des couloirs, on les fait bouillir de la maison. Et avec des stratégies, effectivement, surprendre les serpents et tous les restes dedans, le fait des surprises perdues, et nous pensons, effectivement, que cette communication est négative aussi dans le sens où nous attendons des actions. La population congolaise, de tout le Bouganda, au fond, et toute la République démocratique du Congo, en a marre du discours. Il précise, effectivement, que le ministre, le président de la République, font partie du pouvoir exécutif, pas du pouvoir du pouvoir peut-être philosophique ou bien législatif. Non, ils doivent agir, ils doivent exécuter. Et maintenant, à ces moments précis, le peuple s'attendait, par exemple, à l'application de l'article 63 de la Constitution qui dit effectivement qu'on doit se battre avec tous les moyens. Et là, nous parlons des bêtises, mais je parle directement de Bazalendo. les Ouadalines que nous sommes en train d'encourager de près à Sébat, que nous sommes en train d'encourager, qui rentrent peut-être dans cette catégorie des successifs. Ça va. On devait avoir une mobilisation océanique, parce que c'est un peu comme si le gouvernement congolais néglige cette affaire. Cette affaire est grave et gravissime, parce qu'on sait que ça tient des sources d'autres pays. C'est pas seulement deux, trois personnes qui se sont décidées. C'est toute une armée du Rwanda qui renforce, comme un de mes co-débatteurs l'a dit, et toute une armée de l'Ouganda. Les rapports de l'ANR sont clairs et les rapports des Nations Unies. L'Ouganda est impliqué, très sérieusement. Le Rwanda est impliqué, très sérieusement. Donc, nous ne devons pas faire la politique un peu de l'Autriche et une diplomatie naïve. Donc, moi, je pense effectivement qu'aujourd'hui, l'article 63 de la Constitution, qui n'a jamais vraiment été appliqué comme il faut, devait être appliqué ainsi que l'article 86. L'article 86, c'est déclarer la guerre. Déclarer la guerre, c'est-à-dire quoi? Comme nous acceptons que le 1-20-60 du Rwanda, au moins pour les gouvernements, et nous, nous disons de l'Ouganda, donc nous connaissons le pays qui nous attaque. Nous ne disons pas que nous devons être des battants en guerre, s'il vous plaît. Non. Je ne dis pas qu'on doit aller, comme quelqu'un l'a proclamé, essayer de prendre... Non, je ne dis pas dans cet angle-là. Je dis tout simplement que, parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous n'avons jamais, la République démocratique du Congo n'a jamais pris des options pour aussi attaquer à la mesure du possible, comme je suis en train de le dire. Donc je pense que dans ce sens-là, nous semblons un peu être un peu les dindons de la face.
David, professeur Dadi Saleh, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo et d'Afrique. Jusqu'ici, officiellement, la RDC n'a pas encore pris congé de nombreuses forces étrangères qui sont sur son sol, venues, entre autres, pour l'aider à apporter la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais lorsque la RDC prend une décision comme celle de donner un ultimatum aux groupes armés, les M23, puisqu'il faut les mentionner, est-ce que ça signifie que la République démocratique du Congo, même si elle n'a pas encore officiellement congédié ses amis forces étrangères qui sont venus l'aider, est-ce que ça signifie qu'elle va ou qu'elle pourrait prendre l'option de s'en débarrasser dans les prochains jours et lancer ses propres offensives toute seule avec sa propre armée?
Je pense que c'est un peu illogique, parce que si la République démocratique du Congo accuse l'immobilisme forte de ses autres forces, effectivement, et la République démocratique du Congo parle même des trahisons, mais pas de certaines forces dans ces cadres-là. Donc, ça ne serait pas le moment d'attaquer avant de faire partie de ces forces-là. Parce qu'il faut dire que, par exemple, l'Eastern African Community, toutes ces forces sont à Goma. Eh bien, je peux vous le dire, elles sont effectivement à Bunagana. Et plutôt vers les retours, nous les savons, des postes d'avancée. Donc, la République démocratique du Congo risque de se retrouver devant, entre guillemets, des amis qu'il est en train de chasser, qui deviennent des ennemis directement. Donc, sur le plan stratégique, ce n'est pas très malin, je suis désolé, parce que ce qui serait très malin, si nous avons des soupçons, parce que si nous voulons que ces forces-là puissent partir, c'est parce qu'il y a des soupçons que ces forces-là ne marchent pas pour nous, pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Donc, il fallait faire partir d'abord ces forces-là le plus rapidement possible. Et maintenant, nous avons le prétexte de ne pas nous retrouver avec des gens derrière nos dos en train de concocter des petits plans pour trahir et tirer sur nos soldats et les décourager. Je suis désolé, je ne suis pas spécialiste de terre, mais au moins, je suis spécialiste en développement. Et des pays du Sud, nous connaissons qu'il y a des conflits ouverts entre le Rwanda et la République démocratique Congo, entre l'Ouganda. Donc, on ne peut plus se poser des questions. Est-ce que, comme un de nos co-débatteurs l'a bien dit, est-ce que le Rwanda pourra entrer même à travers les frontières de Tchangougou, à Bukavu ou bien à Goma? Je vous répète, oui. Si franchement, le Rwanda continue à soutenir mordicus le M23 avec cette menace grandie d'espérer, donc effectivement, c'est l'embrasement. Un de nos co-débatteurs l'a dit. C'est-à-dire, nous devons être plus malins. Nous déclarons la guerre une fois pour toutes parce que, pour les conséquences, parce qu'au fond, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs.
Merci, Dadi.
Depuis plus de 25 ans, c'est ça le problème.
Merci, Dadi Saleh, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités à travers l'Afrique. Merci à vous tous qui réagissez
pendant cette émission, aussi bien par les moyens classiques que sur Internet. Vous êtes nombreux, merci, à suivre cette émission. Nous ouvrons donc le standard à nos auditeurs. Et pour vous, professeur Dadi Salé, nous allons écouter cet auditeur, Rémi Lokonga.
Rémi Lokonga, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. L'ultimatum donné au M23 par le gouvernement congolais est un non-événement face à ces mouvements rebelles qui estiment avoir une supériorité par rapport à la FRDC en termes de force et de la puissance de fait sur les terrains de combat. Pour preuve, à chaque fois que les affrontements opposent les forces loyalistes avec ces rebelles, ce sont toujours ces derniers qui finissent à gagner du terrain au détriment des forces gouvernementales. Nous ne comprenons pas comment notre armée se comporte à la défensive en lieu et place d'attaquer les rebelles qui continuent à occuper une partie importante du territoire national depuis plusieurs jours. Le gouvernement congolais doit savoir que ce n'est pas en dorlotant ceux qui prennent les armes contre l'État qu'on va éradiquer l'insécurité dans ce pays, mais plutôt avec la force de frappe que l'ennemi sera contraint de se retirer du territoire occupé et de déposer les armes.
Professeur Dadi Salé, quelle réponse donner à cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani?
Je pense qu'il a fait une belle analyse, mais nous devons noter quelque chose en tant que stratège, c'est que parfois il y a des balles blessées, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que les gouvernements sont en train de faire pour comprendre comment réagirait les forces du M23 par rapport à une attaque que les gouvernements mèneraient? Peut-être que nous n'avons pas des renseignements assez réels sur les événements, ce qui fait que le gouvernement et l'armée peuvent quand même faire ce genre de balles blessées. Ça peut aussi se faire. Donc, je ne suis pas dans le secret du président de la République qui est les seuls, peut-être, à connaître ce qui se passe, mais nous pensons effectivement que l'annoncer déjà est une bonne chose, mais le faire, c'est la meilleure des choses. Ça serait quand même aberrant, donc je donne un peu plus de, comment on dit, de bénéfice des doutes hein, au gouvernement. Ça serait aberrant de dire à toute une population que nous attaquons et que deux jours, une semaine, deux semaines après, parce que même après deux semaines, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est d'attaquer le plus vite possible et au moment comme il faut. Donc, base d'essai, ils annoncent et ils voient un peu les déploiements de l'ennemi. Si c'est le cas, je serais content personnellement comme stratège. Parce que si on n'a pas des renseignements nécessaires, peut-être que notre renseignement n'a pas été capable d'avoir ces éléments, les bases d'essai peuvent être acceptables. Mais ici, on attaque, que ce soit dans une semaine, que ce soit dans deux semaines, qu'on déclenche une force. L'essentiel, c'est que nous venons de dire, c'est que nous ne voyons pas des mouvements. Un exemple. Normalement, l'article 63, c'est de permettre à ce que, comme on n'aura pas peut-être assez d'unités, que même les jeunes puissent défendre les villes, par exemple, de Goma, avec certaines unités, et d'autres villes, etc. Mais c'est toute cette organisation-là. Donc, nous ne nous organisons pas assez. Nous parlons plus sans vraiment avoir une situation sur le terrain, où les, tout le monde, tout, à Goma, casse. Il y a des mouvements effectivement avec la 63 où les gens se préparent. Je pense que là, les Rwandais et les M23 se tirent demain. Mais malheureusement, nous sommes à Goma, je suis là à Goma, on ne voit pas ces mouvements-là. La jeunesse ne se prépare pas. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà la difficulté. Pas cesser, ça marcherait, mais on a plus besoin d'action militaire vers le terrain.
Merci, professeur Dadi Salé. Landry sur Facebook dit Radio Capi est invité. Pourquoi vous donnez plus de crédit aux ennemis qu'à l'armée congolaise dans tous les débats? C'est son point de vue. Il y a Alain qui dit je suis congolais, je soutiens les FRDC. Cependant, je retiens une chose, il est facile de déclencher une guerre, mais difficile de la terminer. Regardons l'Ukraine, etc., etc. Merci de réagir aussi. Il y a Ntumba qui dit bonsoir Radio Capi. Voilà, c'était juste une salutation. C'est plutôt Liévin qui dit « L'attente de la population congolaise est de voir l'ensemble du territoire national au contrôle des FRDC. Paradoxalement, la politique et stratégie militaire sont discriminatoires, ce qui donne cet effet, etc. » Ce qu'il écrit ne se voit pas. Alors, professeur Bob Kabamba, politologue, professeur à l'université de Liège en Belgique. Pour vous, nous allons écouter cet auditeur qui nous appelle depuis Goma.
Ferdinand Kendamina, à partir de Goma dans la province du Nord Kivu. Je crois que notre armée a suffisamment eu le temps de se préparer avant de pouvoir lancer cette offensive. Je crois aussi que ça sera le dernier assaut contre les rebelles du M23. Nous avons longtemps pleurniché, nous avons fait preuve de tolérance, mais malheureusement l'ennemi n'a pas écouté toutes les voix, notamment celles diplomatiques. À cet effet, nous nous devons de capitaliser tous les échecs répétés et depuis la prise de Bounagana pour enfin mettre l'ennemi hors de notre territoire. Cela permettra à ce que l'armée regarde la confiance de la population. Trêve aux discours et aux communiqués de presse. L'ère est à la bataille. Mettons aussi à profit la confiance de la population pour gagner cette guerre une fois pour toutes.
Professeur Bob Kabamba.
Oui, merci pour la question. Je voulais revenir un petit peu par rapport aux commentaires, par rapport à l'auditeur qui parlait que Radio Okapi est tout le temps contre les FARDC. Mais il faut bien comprendre l'opinion publique congolaise. Hein, et que quand on parle par rapport à toutes les questions de la sécurité, on a l'impression que nous sommes uniquement en train de parler du Nord Kivu. Je dois vous parler aussi de l'Ituri. Je vous signale qu'à l'Ituri, il y a des massacres qui sont en train de se perpétuer. Il y a des personnalités, des gens qui sont en train de mourir presque tous les jours dans l'Ituri et pour lesquels il n'y a pas encore d'arriver à ce qu'il y ait une justice et que l'armée arrive à résoudre les questions liées au Codeco et à d'autres groupes armés qui sont actifs là-bas. Je dois parler aussi du site Kivu, où aussi il y a quand même toute une insécurité dans le site Kivu, où aussi dans les hauts plateaux de Minembwe, etc., à Fizi, dans les hauts plateaux au niveau des Uvira, etc., pour lesquels, et même Mwenga, pour lesquels l'armée n'arrive pas toujours à résoudre les questions d'insécurité qu'il y a. Et je peux parler aussi des Kwamouts, parce que là, on oublie souvent, chaque fois quand on parle d'insécurité, on a toujours parlé que du Nord Kivu, du M23, qui on oublie tout ce qui se passe ailleurs. Et tout, et puis les sentiments qu'il y a par rapport à l'opinion publique congolaise, qui dit de manière sans ambiguïté, que l'armée congolaise n'arrive pas à assumer les prérogatives constitutionnelles qui ont de la sécurisation du territoire. Alors, la question est la suivante. Est-ce que l'armée congolaise est suffisamment armée par rapport maintenant à l'auditeur de Goma pour pouvoir faire la guerre? Je pense que l'armée congolaise doit se réformer. Elle n'est pas encore suffisamment réformée pour arriver à ce qu'elle réponde aux attentes de la population, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu des offensives, et plusieurs autres auditeurs l'ont bien souligné, en disant qu'à chaque offensive, l'armée congolaise non pas ne gagne pas, mais plutôt perd du terrain à chaque fois. Mais maintenant, ici, on annonce une offensive qui va résoudre le problème de manière définitive. Si on n'arrive pas à résoudre ce problème de manière définitive, qu'est-ce que l'opinion publique congolaise va dire? Va sincèrement dire que l'armée congolaise n'est pas en mesure d'assumer la sécurité des populations congolaises, la sécurité des biens et sécuriser aussi la frontière, les frontières pour lesquelles ce sont des missions régaliennes de l'armée congolaise. Alors ce n'est pas que Radio Okapi est tout le temps contre l'armée, mais Radio Okapi, de mon point de vue, ne fait que relayer ce qui se passe sur le terrain. Et que aussi l'opinion publique congolaise voit tous les jours ce qui est en train de se passer et à ce moment-là, elle prend position. Donc de mon point de vue, sans ambiguïté, le problème est le suivant, c'est que est-ce que l'armée congolaise est prête, même le ministre des Affaires étrangères lui-même, Lutundula, l'a déjà dit à plusieurs reprises, que l'armée congolaise fait face à deux armées. Quelles sont les deux armées? Il parle de l'armée rwandaise et surtout aussi de l'armée ougandaise. Mais bon, chaque fois c'est toujours l'armée rwandaise, mais de manière très claire, oui, si, pour l'instant, on a l'impression que l'armée, à partir du moment qu'ils pensent qu'ils peuvent arriver à résoudre le problème par la force, plutôt que par la négociation. Et puis je rappelle que toutes les délégations internationales, régionales, préconisent au gouvernement congolais de pouvoir discuter, mais le gouvernement congolais dit la solution est par l'armée, mais il faut, par rapport aux options qui sont levées, d'avoir les mesures, d'avoir la force par rapport aux options qui sont levées. Et c'est que lorsqu'on n'arrive pas à résoudre par rapport aux options qui sont levées, alors ne commencez pas à stigmatiser l'opinion publique congolaise qui trouve que l'armée congolaise n'arrive pas à résoudre les problèmes de sécurité. Et donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport aux différentes remarques qui viennent d'être données.
Merci professeur. Vous, Jacques, dit on attend la démission du ministre Lutundula. Pourquoi tout ce qu'il promet, c'est difficile de le respecter. Comment la population va les prendre au sérieux? Un autre, c'est Moses qui dit le gouvernement congolais travaille pour le M23 parce qu'il donne le temps de s'organiser et de reculer. Et Rodrigue qui dit tout le processus, tous les processus, je suis en train de lire comment il écrit, ont déjà échoué. Il est temps de compter sur notre propre force. Nous avons une armée capable d'en découdre avec eux. Nous allons retourner du côté de Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Et pour vous, Jean-Claude Mbabazé, ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Chabunda.
Maître David Massandi Chabani, depuis Chabunda au Sud Kivu. Cet ultimatum n'aura aucun impact sur le terrain du fait qu'il a été lancé en vertu des démarches diplomatiques. Et les M23 n'est tenu à son respect. Plutôt, faciliter ces derniers de bien renforcer ses positions pour faire face au FARDC. Il est donc important que les gouvernements sachent se honter de faire plus d'une année de guerre avec une rébellion, malgré soutenue par un État voisin, sans trouver une piste de solution. La population est tuée du jour au jour. Elle est soumise aux travaux forcés. Alors qu'il y a un gouvernement, d'où cette déclaration est politique du fait de la non-réalisation des promesses politiques. Le peuple souhaite le départ de la force de l'EAC, qui est l'agent des renseignements du M23.
Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, qu'est-ce que vous pensez de cette position du dernier auditeur qui nous appelle depuis Chabunda, mais aussi de manière globale de ce que pense ou ont déclaré ce soir dans notre émission le reste de la population congolaise?
Ah oui, merci. Donc, je m'excuse parce qu'à un moment donné, ça a coupé, je n'ai pas bien suivi ce que qu'ont dit les auditeurs. Mais avant de peut-être de répondre à ce que vient de dire l'auditeur, je voudrais quand même un peu revenir sur ce qu'a dit le professeur Bob Kabamba, que je salue en passant. Et il a posé quand même la question de savoir si le Rwanda, l'Ouganda vont rester passifs face à l'ultimatum. Non. Et, en fait, on doit être clair. C'est que ce qui se déploie pour l'instant, ce ne sont pas les militaires des M23, ce sont des éléments RDF qui se déploient sur la ligne de front. C'est le Rwanda qui est sur la ligne de front. Et c'est le Rwanda qui prépare les assauts et les attaques contre nos FARDC. L'Ouganda, il n'est pas exclu, ils sont là. Et d'ailleurs, je vous informe que ce soir, au moment où on est en train de parler dans cette émission, il y a un militaire même de l'EAC ougandais qui vient d'être arrêté à Rwanguba parce qu'il est en train de fuir. Il dit que lui, il ne veut plus pas venir combattre, il n'a pas le droit de combattre au Congo. Il vient d'être arrêté par les comités de sécurité du M23. Et donc, c'est pour dire que tous ces deux pays-là, ce sont ces pays qui sont sur la ligne de front. Donc, il n'y a pas de question de passivité, c'est plutôt eux qui sont à la ligne des fronts. Et pour revenir à la question de notre frère David Chabani, bon, écoutez, je crois qu'il a totalement raison. Donc, tel que même l'a dit le professeur Dadi Salé, il a dit on ne peut pas penser vouloir attaquer un ennemi et lui prévenir encore une fois qu'on va l'attaquer. Non, ça c'est pas une bonne stratégie. Ça veut dire que le gouvernement ne devait pas, en tout cas, commencer à lancer des ultimatums. On est en train de voir parfois même des missions, des commandants de FARDC qui sont, en tout cas, filmé, on publie même des vidéos où les commandants sont en train d'aller inspecter des troupes. Tout ça, ça donne quand même à l'ennemi le temps de dire voilà ce qui se prépare. Et donc, ce n'est pas une bonne stratégie. Nous pensons qu'il est grand temps que, au lieu de passer dans des chaînes de télévision, dans des radios, en train de dévoiler des stratégies, il devait plutôt augmenter plutôt ses terres et surprendre l'ennemi, le frapper. Et nous, ce qu'on attend, en tout cas, comme on a dit, l'auteur venait de le dire, c'est pas l'annonce de l'ultimatum. Nous, l'annonce, ça ne nous arrange à rien.
Il faut passer à l'offensive. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, nous sommes malheureusement en train de terminer cette émission. Alors, pour le moment, la RDC n'a pas encore réagi en termes d'offensive. Comment voyez-vous la suite? Vous pensez que après cette émission, après les critiques que nous sommes en train de faire et d'autres personnes sont en train probablement de les faire, Vous pensez que la RDC va passer à l'offensive dans les jours qui viennent, ou bien nous devons considérer cet ultimatum comme juste de la communication, et que finalement ce face-à-face de la RDC avec l'insécurité ne sera résolu que par le dialogue?
Bon, moi, je crois que la population du Nord Kivu n'a pas les raisons de penser. La population veut voir les FARDC lancer des attaques contre la M23. On a longtemps entendu, en tout cas, cette étape. Il est grand temps, parce que les gens souffrent quand même. Les gens passent des moments très difficiles. On ne peut pas continuer à souffrir face, en tout cas, à tout ce qui se passe. Et la population veut, en tout cas, voir les FARDC entrer dans le jeu, frapper tous ces bandits qui nous insécurisent, surtout qu'il y a là, en tout cas, ces soutiens-là. Et que donc, pour la population, en tout cas, il n'est plus question de tergiverser, et surtout pour la population, on ne veut plus entendre les mots retrait ou repli stratégique. Ça, on ne veut plus écouter ces mots-là. Nous voulons que quand les FARDC vont lancer les opérations, qu'ils y aillent avec détermination, avec vraiment cet engagement-là, d'en découdre et d'en finir une fois pour toutes. Parce que, comme on dit là, si on ose encore faire de la blague comme on en avait fait la fois passée, c'est des vies humaines qu'on veut mettre encore en danger, et que donc les FARDC doivent être conséquent, le gouvernement doit être responsable. L'Outuru, c'est une partie du Congo, il a aussi droit de sécuriser par les FARDC, et il est grand temps que, en tout cas, l'esclavagisme qui subit nos populations soit mis de côté, et que les populations aussi puissent bénéficier
de la paix et de la tranquillité,
de la protection de l'État.
Merci Jean-Claude Mbabazé. Bob Kabamba, politologue, professeur à l'Université de Liège en Belgique, comment voyez-vous la suite de cette problématique? Est-ce que c'est finalement le dialogue qui va encore s'imposer comme jusqu'ici, ou bien à un moment ou à un autre, ça sera le feu contre feu, et on verra le résultat à ce moment-là?
Oui, merci pour la question, c'est une question fondamentale. C'est qu'il y a deux issues. Si l'armée et les FARDC arrivent à avancer, l'opinion publique congolaise va être pour FARDC, mais si les FARDC échouent, comme mes co-débatteurs viennent de le dire, l'opinion publique congolaise va basculer pro M23, et malheureusement, de ce qu'on est en train de voir, l'évolution de ce qui est en train de se passer, je crains fort que nous allions vers un basculement de l'opinion publique pro M23 plutôt que pro FARDC, puisque si on assiste encore une fois, on sait qu'il y a des offensives, et puis après on recule, mais plus stratégique. Je pense que la population de Goma, Bukavu, Chake, etc., vont sincèrement dire autant que la M23 vienne plutôt que d'être sécurisée par les FARDC. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu quand même des signaux très inquiétants, notamment les massacres de la population de Goma, d'une partie de la population de Goma qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, où on a massacré les fidèles de cette église, et qui a entaché sur la question de la sécurisation de ces populations. Et donc, vous imaginez que si l'offensive échoue, je pense que l'opinion publique
va se retourner contre les autorités.
Et si de l'autre côté, nous allons arriver, malheureusement, à avoir une espèce de basculement
d'accord
au niveau de l'échiquier politique congolais.
Merci, Bob Kabamba. Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités du pays et d'Afrique. Votre pronostic sur ce qui pourrait être les jours à venir dans cette problématique?
Je pense effectivement que les leaderships congolais, commençant par le président de la République, on doit être un peu plus sérieux et on doit comprendre. J'attends toujours un rendez-vous que j'ai demandé avec les autorités et les chefs de l'État, mais il faut comprendre que je ne sais pas si l'article 63 de la Constitution, qui est 86 pour faire la guerre, existe dans la Constitution comme des fleurs. Ça ne sert à rien. Quand est-ce qu'on appliquera sérieusement ces articles-là? Donc, je pense effectivement, quand on va se prendre au sérieux et cesser des politiques ailleurs, un peu parler justement les mots, ça va, tout le monde se va pour être le président de la République, député, les autorités morales, plutôt que de se concentrer sur le village en train de tuer et que nous puissions tous nous battre comme un seul homme. Ça, c'est le vrai problème. Il y a plusieurs stratégies avec l'article 63 qui peuvent s'appliquer. Je ne dis pas à la radio, ça va, mais les propositions sont là, mais on ne les voit pas, mais ce n'est pas le problème, mais qu'on les applique quand même. Tant qu'on ne se prend pas au sérieux et comprend que la situation est grave, parce qu'on n'est pas en train de parler d'une situation d'une année, Non, ça fait plus de 22 ans que nous sommes traînés dans la boue et nous sommes traités comme on était tchou-tchou. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien. Alors, les Ouazalènes, signifie les patriotes, doivent se mettre ensemble pour libérer la nation. Il n'y a pas d'autre choix. Je vous ai répété, on ne négocie pas avec un serpent. Je me pose des questions, qui est en train de penser qu'on peut négocier avec, entre guillemets, le serpent? Ce n'est pas possible. Et vraiment, les chefs de l'État peuvent être sérieux et continuer avec la position. Pas de négociation avec eux. Mais si on ne fait pas de négociation, on doit mettre toutes les batteries. Les gens disent qu'on a déjà utilisé toutes les stratégies. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on a des gens? On a quand même des gens intelligents. Mais quelle stratégie qu'on a déjà utilisée? On s'est un peu battu. On ne s'est pas encore mobilisé. Comme des Bantous, comme tout un peuple congolais. Avec l'article 63, je vais peut-être dire, je préférerais peut-être après, on n'était jamais mobilisé, ni à Kinshasa, ni à Lubumbashi, ni à Kisangani, ni ailleurs, même pas à Goma. Et ça a été demandé par la population. Je pense que les leaders faibles du Congo font en sorte qu'on nous prend comme de petits enfants, des bons à rien. On doit se décider une fois pour toutes et assumer les conséquences.
Merci pour votre participation à cet autre numéro de notre dialogue entre Congolais. Polydor, Basunga Guimaté, Jonathan Fouanani, mais aussi Clément Chimangamon, aidé à produire cette émission de la Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.